Alphonse Daudet, Cadour et Catel. Cadour Ben Chérifa, sergent-major aux tirailleurs indigènes, était mourant le soir qu'on l'apporta à la Syrie Ripper sur la Saobar. Et pendant 5 longues semaines, tout ébranlé de ses blessures, tremblant de fièvre, il a vécu comme dans un rêve. Quelquefois, il se croyait encore en pleine bataille, hurlant et bondissant à travers les champs de lin et les houblonnières du Wissembourg, ou bien là-bas, en Algérie, dans la maison de son père, le caïd et Matmatas. Ensuite, il ouvrait les yeux, et vaguement, il entrevoyait une chambre à grands rideaux blancs, claire et calme, des branches vertes agitées aux fenêtres, un soleil traversé de nuages, et, près de son lit, une petite sœur de charité attentive, silencieuse, mais qui n'avait ni croix d'argent, ni chapelet, ni voile bleu, seulement 2 grandes nattes, retombant sur un corsage de velours. De temps en temps, on appelait « Catel ! Catel !» Alors la fillette s'en allait sur la pointe des pieds et le blessé écoutait de loin une voix sonore et jeune qui lui faisait frais à entendre comme le ruisseau coulant sous les fenêtres de la Syrie. Cadour Ben Chérifa a été longtemps malade. Mais les ripères l'ont si bien soigné que ses blessures se sont fermées, si bien caché que les Prussiens n'ont pas pu l'envoyer mourir de froid dans les casemates de Mayence. Maintenant, il commence à parler, à montrer ses dents blanches, et fait quelques pas dans la chambre, en laissant tomber une de ses manches, celle qui a un grand trou béant au milieu des broderies, sur un bras pansé, bandé et encore impotent. Tous les jours, dans le petit jardin de la Syrie, Catel descend une chaise de paille pour le blessé. Elle lui cherche, au long des murailles, le coin le plus chaud où les raisins mûrissent le plus vite. Et Cadour, qui, en sa qualité de fils de caïd, a fait ses études au collège arabe d'Alger, la remercie dans un français un peu barbare, émaillé de Bono Bezef et de Makash Bono. Sans s'en douter, le bon Turco est sous le charme. Cette facile gaieté de jeune Franck, qui vit libre comme un oiseau, sans voile au grand air, ni grillage à ses fenêtres, l'étonne et le ravit. Il y a loin de cela à la vie murée des femmes de son pays, aux petites mauresques masquées de blanc et parfumées de verveine. Catel, de son côté, trouve Cadour un peu trop noir. Mais il a l'air si bon, si brave, il déteste tant les Prussiens. Une seule chose à la fâche, c'est que là-bas, dans cette Algérie d'Afrique, les hommes ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Catel ne comprend pas cela, elle. Aussi, quand l'Algérien, pour la contrarier, lui dit dans son jargon « Cadour, marié bientôt, lui, prenir 4 femmes, 4 !» Catel se met en colère. « Ouh, le vilain Cadour, le païen !» Alors, le Turco rit d'un bon rire d'enfant. Puis, tout à coup, il redevient sérieux et reste muet devant la jeune fille, en ouvrant des yeux si grands, qu'on dirait qu'il veut l'emporter dans son regard. C'est ainsi qu'ont commencé les amours de Cadour et de Catel. Cadour, une fois guéri, est retourné chez son père, et vous pensez s'il y en a eu des fêtes en son honneur au pays des Matmatas. Les flûtes de roseaux et les petits tambours arabes ont joué leurs plus beaux airs pour le recevoir. Le vieux caïd, assis devant sa porte, en voyant venir de loin dans l'allée de cactus ce fils chéri qu'il croyait mort, s'est mis à trembler sous ses burnous de laine comme s'il avait pris les fièvres. Un mois durant, ça a été dans la tribu une suite ininterrompue de diffas, de fantasias. Les caïds, les agas du voisinage, se disputaient l'honneur d'avoir Cadour Ben Chérifa pour hôte, et tous les soirs, au café mort, on lui faisait raconter les grandes batailles où il s'était trouvé mêlé. C'est égal, tous ces honneurs, toutes ces fêtes ne rendent pas Cadour plus heureux. Dans la maison paternelle, entouré de tous ses souvenirs d'enfance, ses chevaux, ses lévriers, ses armes, il lui manque toujours quelque chose, la parole ouverte et le rire franc de Catel. Le petit gazouillis perpétuel des femmes arabes, qui lui faisait battre le cœur autrefois, maintenant le fatigue, l'ennuie. Il n'aime plus ni les coiffures de sequins, ni les chapelets de fleurs d'oranger, ni les grands pantalons de satin rose. Parlez-lui plutôt des longues nattes, tombant sans perles, ni gazes, ni fleurs, seulement traversées de fils d'or dans le soleil couchant d'un petit jardin d'Alsace. Et pourtant, si Cadour voulait, il y a dans une tribu voisine de la sienne de beaux yeux noirs qui le guettent derrière les fenêtres grillées de la maison de Laga, de beaux yeux si allongés de col que le regard y ressemble à une paresse. Mais Cadour ne veut plus de ces yeux-là. Ce qu'il rêve, ce qu'il regrette, c'est le bon regard de Catel qui faisait si vite le tour de la chambre pour voir si rien ne manquait au malade et où la vie s'agitait toujours comme la lumière dans le bleu des gouttes d'eau. Peu à peu, cependant, le charme des yeux bleus s'efface, ce charme tendre mêlé aux premières sorties, au premier réveil de la convalescence et à ce climat de France si doux, si tempéré. Cadour a fini par oublier Catel. Dans toute la vallée du Chélif, il n'est bruit que de son prochain mariage avec Yamina, la fille de l'aga du Djendel. Un matin, on a vu un long défilé de mules monter du côté de la ville. C'est Cadour Ben Chérifa qui va avec son père acheter les présents de noces. Toute leur journée s'est passée à courir les bazars, à choisir les burnous lamés d'argent, les tapis de Smyrne, les colliers d'ambre, les pendants d'oreilles. Et en maniant tous ces jolis bijoux, ces floches de soie, ces fines étoffes, Cadour pense à Yamina. L'Orient l'a repris tout à fait, mais bien plus par l'habitude, l'influence de l'atmosphère et des choses que par un lien du cœur. Au jour tombant, les mules alignées, chargées de couffins de sparterie tout gonflés de richesses, descendaient la rue du Faubourg quand, devant la cour du bureau arabe, elles se sont trouvées arrêtées par un grand encombrement. C'étaient des émigrants qui venaient d'arriver. Comme il n'y avait rien de prêt pour les recevoir, les malheureux étaient là à réclamer, à se plaindre, à se renseigner. Les plus découragés restaient assis sur leurs bagages, fatigués de la traversée, gênés par la curiosité de la foule. Et sur tous ces exilés, comme une tristesse de plus, le soleil couchant déclinait, la nuit tombait, pour leur faire encore plus sombre l'inconnu du pays nouveau et l'étonnement de l'arrivée. Cadour les regardait machinalement. Mais tout à coup, une grande émotion lui monta au cœur. Les costumes des vieux paysans, les corselets de velours des femmes, tous ces cheveux couleur de moisson mûre. Et voici que son rêve prend une figure nette. Il vient de reconnaître les traits doux, les grandes nattes et le sourire de Catel. Elle est là devant lui, avec le vieux Ripert, la mère et les tout-petits, bien loin de leur scierie et de la Sauerbar, qui coule toujours là-bas, devant la petite maison abandonnée. Cadour ! Catel ! Lui, il est devenu tout pâle. Elle, elle a rougi un peu. Allons, voilà qui est dit. La maison du caïd est grande. Et en attendant que leur donne un coin de terre, les émigrants vont s'y installer. Vite, la mère ramasse les paquets traînant autour d'elle. Elle appelle ses petits, qui jouaient déjà avec des enfants étrangers. On les met dans les couffins, pêle-mêle parmi les étoffes. Et Catel rit de tout son cœur de se voir si grande sur une selle arabe. Cadour rit, lui aussi, mais moins fort cependant, avec une émotion de bonheur contenu. Comme la nuit tombe et qu'il fait froid, il entoure son ami d'un beau burnous rayé, pris parmi les cadeaux de noces, d'un haïk brodé de perles, et dans cet accoutrement qui se drape autour d'elle, se plisse, remue des franges, immobile et droite sur sa monture haute, elle a l'air d'une musulmane blonde qui aurait quitté son voile. Cadour y songe en la regardant. Alors il lui vient des idées folles, mille projets. Il pense déjà à rendre sa parole à la fille de l'aga, à se marier avec Catel, rien que Catel. Qui sait, peut-être un jour, ils s'en reviendront ainsi de la ville, tous deux seuls dans un chemin de laurier rose, elle rieuse sur sa mule, lui tenant la bride comme maintenant. Et fiévreux, tout à son rêve, voilà qu'il veut donner le signal du départ. Mais Catel l'arrête d'une voix douce. « Pas encore, mon mari va venir, il faut l'attendre. » Catel était mariée. Pauvre Cadour !